Séminaire de politique, 1er mars 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Tout de suite dans le vif du sujet, parce que ça risque d'être un peu assez long et assez complexe. Alors nous en étions la dernière fois avec le dernier séminaire au livre 3. Alors je reprends la fin de ce livre 3 qui n'avait pas été vu, parce qu'il me semble que c'est quand même assez important, bien que le sujet normalement ça devait être à partir du livre 4. Dans la fin de ce livre 3, après avoir vu la question du citoyen, déterminer ce qu'est le citoyen pour la cité, non pas telle cité, mais la cité en général, Aristote cherche qui a le droit d'avoir l'autorité. Quel est, en grec, le to kurion ? C'est toute la question de l'autorité et par rapport à la loi, parce que l'autorité légifère. Et juste avant de commencer la royauté, Aristote parle des cas des individus exceptionnels, qui précisément transcendent la loi, la dépassent, ces individus que normalement on n'a pas le droit de frapper d'ostracisme, mais que bien souvent, bien des cités éliminent parce qu'ils deviennent gênants. Et Aristote enchaîne directement, sans qu'on comprenne très bien pourquoi, avec la royauté. Mais en fait, c'est important, je crois, la royauté, on aura à comprendre pourquoi la royauté est traitée dans ce livre 3, et non pas avec, dans le livre 4, avec les autres formes de constitution. C'est important parce que si Aristote le fait, à mon avis, intentionnellement. Alors, la royauté est donc une constitution, fait partie des constitutions correctes, c'est-à-dire elle fait partie en grec des constitutions droites, et elle se diversifie immédiatement en quatre modalités suivant la manière dont le gouvernement du roi, du monarque, s'exerce. Alors, je vous donne les exemples des quatre modalités. Je le fais avec la royauté, mais je ne le ferai pas avec les autres constitutions, parce que c'est un peu fastidieux. Finalement, ce qui nous importe plus, c'est la manière dont Aristote fait cette étude, plutôt que les conclusions, parce que les conclusions sur la démocratie et sur la royauté sont pour nous beaucoup, assez peu intéressantes. Alors, une première modalité, la royauté dans la constitution laconienne passe pour être le type même de la royauté fondée sur la loi, et elle n'est pas souveraine en tout. Donc, faut commencer à repérer les éléments qui vont perdre, les critères qui restent dans cette étude de la royauté. La deuxième, outre celle-là, il existe une autre forme de monarchie. Telles sont des royautés chez certains barbares, elles ont toutes à peu près le même pouvoir que les tyrannies, mais elles sont à la fois fondées sur la loi et héréditaires. Vous voyez, il y a des éléments qui restent par rapport, il y a des éléments qui changent. La loi reste là, mais héréditaire. Mais il y en a une autre, c'est en somme une tyrannie élective qui diffère de la monarchie barbare, non en ce qu'elle n'est pas fondée sur la loi, mais uniquement en ce qu'elle n'est pas héréditaire. Et enfin, une quatrième forme, une quatrième espèce de monarchie royale, ce sont les royautés des temps héroïques, fondées sur le consentement général et l'hérédité, et réglées par la loi. Vous voyez un peu la méthode d'Aristote. Il essaye de déterminer quels sont les éléments qui varient, quels sont les éléments par rapport pour une même monarchie, ou plutôt pour un même genre monarchique, quels sont les éléments qui déterminent, si on peut dire, des espèces monarchiques. Alors, Aristote vient de dire que la monarchie faisait partie des constitutions droites, et ailleurs il semble dire que la monarchie c'est le meilleur gouvernement. Pourquoi commence-t-il par la monarchie? Je crois que c'est important de se poser la question. Il semble, je crois qu'on peut dire que la royauté, je prends royauté et monarchie comme identique, hein, au point de vue de la signification, est première génétiquement, et ce qui le montre, je crois, c'est une remarque d'Aristote qui dit, alors Budé, page 90, et Tricot, page 239. Mais on a une cinquième espèce de royauté quand un seul homme a autorité sur tout. Donc j'ai dit quatre, mais en fait il y en a une cinquième, on va voir pourquoi. A autorité sur tout, comme chaque peuple ou chaque cité, sur ses intérêts communs. Elle se place au même rang que le gouvernement domestique, c'est-à-dire le gouvernement de la famille qu'on a étudié au premier livre. De même que le gouvernement domestique est une sorte de royauté sur une maison, Cette royauté est comme un gouvernement domestique, soit d'une ou plusieurs cités, soit d'un ou plusieurs peuples. Alors Aristote donc fait le parallèle, comme il le fera dans l'éthique, avec la famille. Et je crois que ça indique que l'autorité monarchique, le type de gouvernement monarchique, est le plus proche de celui de la famille, et donc le premier génétiquement. Puisqu'on a vu dans le livre 1 que la famille était élément de la cité et d'une certaine manière premier génétique. Et voilà ce qu'il dit dans le livre 1, donc chapitre 2, qu'on a étudié au premier séminaire. Les cités, à l'origine, étaient gouvernées par des rois, comme le sont encore aujourd'hui les ethnies, car elles se formèrent, les ethnies ou les villages, enfin, ça dépend comment on traduit, car elles se formèrent des familles gouvernées par des rois. Toute famille, en effet, est gouvernée par la royauté du plus ancien, comme aussi ses extensions, à cause de leur origine commune. Chacun légifère sur ses enfants et ses femmes. Donc je crois que c'est la première raison, et puis du fait même qu'elle se rattache à la famille et qu'elle est première génétiquement, c'est aussi l'autorité la plus naturelle, je crois, pour Aristote. Et ça rejoint une ligne de force que l'on voit dans la philosophie politique d'Aristote et dans toute sa philosophie, c'est qu'Aristote veut toujours rejoindre le point de vue de la nature, le point de vue phousis. On l'a très bien vu dans le livre 1. Pourquoi ? Parce que si rien n'était naturel, si la réalité politique était que conventionnelle, qu'une histoire de convention, eh bien on ne pourrait pas en faire la philosophie. Ça serait un art, une technique, un jeu. Et je crois qu'Aristote a toujours, comme on le verra à propos de l'éducation à la fin du séminaire, le souci de se placer par rapport aux sophistes et de montrer quel est l'enracinement naturel. Et c'est d'autant plus important que là, nous voyons les constitutions qui sont en quelque sorte la partie la moins naturelle de la réalité politique. C'est des constitutions changent énormément, c'est très complexe, ce sont les hommes qui semblent les construire un peu selon leur goût. Donc le fait qu'ils commencent par la royauté, c'est quand même assez important. Bon, alors Aristote a 4 ou même 5 formes de royauté, il en réduit aux deux extrêmes, parce que les autres sont simplement des degrés divers entre les deux. Et puis, comme il y a un extrême qui ressemble presque à une autre constitution, il l'abandonne et il garde carrément une seule forme, ce qu'il appelle la royauté absolue. C'est en quelque sorte le maxime étalé dans le genre. Donc c'est là qu'on va mieux voir ce qu'est ce qu'on veut étudier, les caractéristiques. Alors, curieusement, juste après avoir dit qu'il va étudier la royauté absolue, Aristote enchaîne comme ça. Le point de départ de cette recherche, le voici. Est-il plus avantageux d'être gouverné par le meilleur homme ou par les meilleures lois ? Alors, si vous vous souvenez, enfin, je ne me souviens plus très bien si on l'a fait au séminaire précédent, mais c'était la question centrale de la fin du séminaire précédent. Et alors, Aristote, qui normalement avait commencé un nouveau sujet, la royauté, y revient. Donc ça éveille notre attention pour voir que si Aristote fait la monarchie là, c'est qu'il a sans doute une intention. Alors je crois que cette intention générale, c'est que c'est avec le gouvernement d'un seul, lorsqu'un seul gouverne, donc la monarchie en gros, qu'on va pouvoir voir le lien le plus précis entre la loi, le gouvernement de la loi, et le gouvernement d'un seul, le gouvernement d'un homme. Parce que si on le voit avec les autres constitutions, ça complexifie le problème. Donc, à mon avis, Aristote veut reprendre le même problème qui lui tient à cœur par une situation qui incarne de manière particulière ce qu'est l'autorité par rapport à la loi. Donc, le problème, voici, l'homme qui gouverne seul doit nécessairement être législateur s'il veut organiser sa cité. Et il doit aussi y avoir des lois, mais ces lois, alors, sont-elles souveraines en tout, ou bien sont-elles souveraines sur certains sujets, et le roi législateur est-il souverain sur certains domaines. Donc c'est tout le problème de l'autorité personnelle d'un côté, l'autorité subjective si on veut, et puis l'autorité objective de la loi qui est universelle. La loi implique toujours universalité. Donc le problème est très aigu dans la monarchie, là où l'autorité subjective, si on peut dire, pour s'exprimer de façon claire, est la plus manifeste. Alors, ce qui est une petite remarque de méthodologie d'Aristote, c'est très intéressant. Aristote regarde beaucoup plus ceux ou celui qui sont le plus capables de gouverner et non pas la meilleure constitution. Ou comme dira Tricot après, Tricot qui traduit constitution idéale. Ça, c'est pas du tout d'Aristote. C'est une traduction, je sais pas trop, platonicienne. Mais Aristote regarde plus celui qui n'est pas capable de gouverner. Donc ça, c'est le réalisme d'Aristote. Ensuite, alors, suit une discussion dialectique où Aristote montre les avantages de la loi. La loi est sans passion, tandis qu'une âme humaine est nécessairement passionnée. Alors ça joue un important rôle, la passion. Et c'est encore peut-être là un des lieux où on voit la nécessité de la païdéia, c'est-à-dire de l'éducation, ce qu'on verra beaucoup mieux à la fin. Mais, dit Aristote, si la loi est sans passion, on peut quand même compenser et penser qu'un grand nombre de personnes pris ensemble, donc la foule si on veut, jugent mieux pris ensemble dans bien des cas qu'un seul individu, et a l'avantage d'être plus souple que la loi. Puisque la loi, c'est fixe, universelle, puisqu'un grand nombre d'individus peut juger à la fois mieux que l'individu et mieux que la loi. D'autre part, ce grand nombre d'individus est difficile à corrompre, et puis évite les passions, parce que la passion collective, en fait, on sait maintenant que ça existe, mais c'est plus difficile. Alors, ça vaut le cas si la foule est vertueuse. Vertueuse, alors toujours, hein, quand on dit vertu, on traduit français « arrêter », c'est-à-dire excellence, donc toute l'excellence morale, c'est pas simplement la vertu au sens cartésien. Alors en fait, Aristote se fait pas d'illusions, si on trouve difficilement des hommes de vertu imminente, donc qui ensemble pourraient former le gouvernement, faire un gouvernement le meilleur, alors le grand nombre de personnes ne pourra jamais être supérieur à un seul individu d'excellente vertu, donc le roi s'impose. Alors, il y a une petite remarque, je la passe, je vous la cite juste, enfin je vous la note juste. Aristote s'appuie sur la royauté, justement partant du gouvernement de la famille, pour donner un premier schéma de l'apparition génétique des régimes, royauté, puis avec l'apparition des armes oligarchie, puis avec l'enrichissement, et puis peu à peu l'enrichissement devenant plus général, ça c'est une policie démocratie. C'est assez peu clair. L'important pour tout à l'heure, c'est sans doute de remarquer qu'Aristote note que il est maintenant difficile de concevoir autre chose qu'une démocratie. Alors, démocratie au sens d'Aristote, comme on verra plus tard au livre 4. Alors, Aristote revient au sujet qu'il avait décidé de traiter, la royauté absolue. Le roi, c'est-à-dire le roi dispose de tout au gré de sa volonté. Mais, dit Aristote, pour des êtres semblables, c'est une injustice et cela va contre la nature d'être gouverné toujours par le même au gré de sa volonté et ayant pouvoir absolu. Donc il faudrait l'alternance de tous au gouvernement. Alors devant ce dilemme, la loi est finalement préférable. Donc vous voyez, une discussion dialectique, tantôt on appuie sur l'un, tantôt on appuie sur l'autre. La loi est préférable, et alors dans ce cas-là, les magistrats, c'est-à-dire ceux qui gouvernent effectivement, doivent être seulement gardiens de la loi. Il y aura alors un jeu d'interaction, d'action-réaction, entre la loi qui forme les magistrats, donc on voit encore l'éducation apparaître. Aristote ne le dit pas explicitement, mais on peut le voir, puisque la loi forme les magistrats à régler les cas qu'elle ne peut pas prendre en compte. Donc puisque la loi est universelle, il y a forcément des cas singuliers contingents, si on veut dire, qui ne sont pas réglés par la loi, la jurisprudence, si on veut. Et même, la loi pourrait même former les magistrats à réformer la loi dans le sens du meilleur. Vous voyez, une coopération entre la loi et les magistrats. Alors c'est intéressant parce que Aristote, à ce moment-là, dit... Page 95 chez Budet, page 248 chez Tricot. Ainsi donc, exiger que règne la loi, c'est semble-t-il exiger que Dieu et la raison, alors la raison c'est pas ça, c'est nous, que Dieu et le nous règnent seuls,
exiger au contraire le règne d'un homme, c'est ajouter aussi celui d'une bête, car le désir aveugle est comme une bête, etc. Le comportement de la passion. Alors, cette notation sur le règne de la loi, c'est le règne d'exiger que Dieu et le nous, c'est-à-dire intelligence, esprit, règne, ça pourrait ouvrir une perspective de réflexion philosophique intéressante. Cela montre, je crois, la loi, et là je m'appuie sur le commentaire du père, le père fait à Fribourg, ça montre que la loi comme fruit du nous. Alors peut-être on pourra comprendre ce que Aristote entend par autorité, parce qu'en fait c'est toujours le gros problème. Le point central de la politique, c'est l'autorité. Donc si on essaye de comprendre d'où vient la loi qui a autorité forcément, on pourra peut-être comprendre l'autorité. L'autorité est-elle la loi ou bien l'autorité émane-t-elle du nous? Et dans le cas de la politique, ça sera le nous pratique, l'intellect pratique, dont la vertu est la prudence. Mais le nous, c'est une seule. Le nous est aussi spéculatif en même temps, et il regarde Dieu. Enfin, c'est un peu comme ça que j'essaye d'expliquer cette intervention de Dieu, parce que c'est pas évident à comprendre. Pourquoi Aristote met-il Dieu là? Donc je crois que l'autorité est liée essentiellement aux nous pratiques et donc à la prudence, à la phronesis. Or, si on étudie l'éthique dans le livre 6, on voit que la prudence est dans certains cas et même une véritable sagesse pratique pour Aristote. Je crois qu'on peut aller jusque-là. Par rapport à la sagesse spéculative qui détermine le nous spéculatif. Ce serait donc la sagesse pratique prudence qui serait la source de la loi. Et c'est peut-être là qu'on peut saisir le problème qui nous triture en éthique dans le livre 1, l'importance qu'Aristote donne à la politique. Quand il dit la politique est science architectonique, qu'elle regarde un bien plus beau et plus divin, si on le voit dans la lumière de la sagesse pratique, la prudence, peut-être. On pourrait peut-être essayer de saisir la solution. Mais j'avoue que c'est pas évident. Et d'autre part, si on comprend par le nous, par la prudence, ce que c'est que l'autorité, on peut aussi comprendre la place du bien commun. Parce que si la politique, c'est l'affaire de la prudence, il faut que ça soit finalisé, et donc il y a besoin de quelque chose qui finalise. Au point de vue pratique, ce qui finalise, c'est le bien. Donc le bien commun se situe peut-être là, je crois, même sûrement, par rapport à l'intelligence pratique, par rapport à la prudence. Donc finalement, ce qui constitue l'autorité, c'est le nous pratique finalisé, entre parenthèses, parce qu'Aristote ne le dit pas, finalement, par le bien commun, et donc ça forme soit l'autorité de la loi, soit du roi, suivant. Mais on pourrait peut-être faire un petit développement intéressant pour discuter, pour savoir si la loi est-elle adéquate au bien commun. Qui en est la fin, puisque si on accepte ça, que la prudence est finalisée par le bien commun, la prudence forme l'autorité de la loi, quel est le rapport entre la loi et le bien commun? Donc la loi est toujours du point de vue de la justice, par définition, et puis d'un point de vue universel. Alors c'est intéressant parce que si le bien commun c'est la justice, donc l'ordre, et un point de vue universel, si le bien commun est l'ordre et la justice, c'est la loi qui est maîtresse partout. Mais si le bien commun dépasse le point de vue de la justice, alors il y a une possibilité pour que ça soit plus la loi qui domine, mais au contraire une autorité personnelle, finalisée. Donc c'est la prudence de celui qui gouverne, dans ce cas-là, si le bien commun dépasse la justice, c'est la prudence de celui qui gouverne qui devra en fin de compte avoir la primauté. Et puis alors, on peut arriver à dire, en s'aidant du second séminaire sur le livre 2, que le bien commun finalement dépasse la justice. Ce sera la concorde, comme on l'a étudié au second séminaire, l'amitié de concorde entre les citoyens qui dépasse la justice, par définition l'amitié. C'est dans l'amitié qu'on voit le mieux le dépassement du point de vue universel de la loi par les relations personnelles. Mais alors évidemment, l'avantage de la loi, c'est d'être sans désir, c'est ce que je viens de dire. Donc il faudrait, en fait, conclusion, il faudrait que celui qui gouverne soit une sorte de nous, de prudence exemplaire. Donc, conclusion logique, ce qui est évidemment pas très possible, c'est quelqu'un sans affectivité passionnelle. Alors il ne faut pas prendre ça trop catégoriquement, mais ça montre l'importance de la prudence, je crois, par rapport au bien commun. Et le bien commun, si on le comprend comme amitié. Alors voilà un développement, ce qu'on peut essayer de lire entre les lignes. Mais Aristote, lui, ne dit pas ça. En fait, il ne dit pas ça. Parce qu'il dit juste que c'est le règne de la loi, de Dieu et de la raison. Et il enchaîne. En fait, dit-il, le point contesté n'est pas qu'en un tel domaine, la décision appartienne nécessairement à l'homme, mais uniquement qu'elle appartienne à un seul et non à plusieurs. Donc en fait, il semble abandonner complètement le problème qui dépage. Est-ce que c'est à un seul homme ou à plusieurs? Donc en fait, Aristote fait comme si le problème le partage des eaux entre la loi et l'autorité personnelle, l'autorité du souverain, était réglé. Et donc il faut s'attacher à l'autorité qui nous occupe, celle du roi, autorité d'un seul, donc monarchie absolue, ou autorité de plusieurs. Donc, pas très facile de saisir quand même comment Aristote poursuit sa recherche. Donc l'autorité d'un seul, qui est presque toujours domination, Aristote l'a dit clairement que c'est préjudiciable, presque toujours, injuste et désavantageuse pour la cité. Mais n'est-elle pas, dit-il, pour certains peuples, utile ou juste? Parce que si divers types de communautés sont adaptés pour certaines formes de gouvernement... Ouais, attendez. Alors, il est évident, dit Aristote, que pour une communauté d'individus égaux et semblables, la suprématie d'un seul, donc du roi en fait, finalement, n'est ni profitable ni juste du roi. Mais Aristote semble laisser la possibilité pour certains peuples d'être gouvernés finalement comme une domination. Et dans le cas, alors domination ou bien royauté, dans le cas où la vertu de celui qui domine est très supérieure, arrêtée toujours, vertu arrêtée. Et donc on retrouve à la fin, on retrouve en quelque sorte ce dont on était parti, quand un individu est très supérieur, par son excellence, il a le droit de gouverner et de gouverner toujours. Et on doit lui obéir, dit Aristote textuellement, de bon cœur. Donc en fait, on a fait une sorte de boucle à travers la royauté qui nous a permis de résoudre, d'approcher le problème de la loi, de l'autorité. Mais finalement, pour la royauté, on n'est pas tellement avancé. Donc, alors, conclusion pour la monarchie, pour ce type de constitution, royauté-monarchie, je crois qu'au début, Aristote la présente comme simplement droite, correcte. En définitive, il semble qu'Aristote conclut... Disons que Aristote, avec l'étude de la monarchie, prépare ce qu'il fera plus tard dans le livre 7 et qu'on va voir, c'est-à-dire ces éléments importants, si on veut que la monarchie ne soit pas tyrannie, les éléments importants de la vertu, de l'excellence. La vertu, sinon ça se transforme en domination. Ce qui fait que malgré le flou que je vous laisse transparaître, qui est un peu celui du texte d'Aristote, en fait... Il semble qu'Aristote considère, du fait que la royauté est la première génétiquement, qu'elle met le mieux en lumière l'autorité, qu'une certaine forme de monarchie, là où l'excellence est mise en premier lieu, l'excellence de ceux qui gouvernent et l'excellence de ceux qui sont gouvernés, serait un des régimes les meilleurs. Mais toujours, hein, quand on simplifie en disant pour Aristote, c'est telle constitution qui est la meilleure, etc., quand on regarde le texte, en fait, c'est vraiment difficile de trouver. J'avoue que je n'ai pas vraiment trouvé. Alors, cette étude, donc le livre 3 s'achève comme ça. Je vous lis le paragraphe, page 100 chez Budet et page 255 chez Tricot. Il y a, à notre avis, trois constitutions correctes, et la meilleure d'entre elles est nécessairement celle où l'administration est aux mains des meilleurs. Tel est le régime où se trouve un seul individu, ou une famille entière, ou une multitude de citoyens, surpassant tous les autres en vertu. Ces derniers étant capables d'être gouvernés et les premiers de gouverner en vue d'atteindre le genre de vie le plus désirable. Bon. Donc Aristote termine là sur un point de vue franchement éthique. Il insiste sur l'excellence. Et alors c'est intéressant parce que ça semble faire appel directement avec le début du livre 7 que l'on verra tout à l'heure, où Aristote reprend justement la question du meilleur gouvernement. Mais entre, alors, il semble annoncer, ces précisions données, il faut maintenant se mettre à traiter de la meilleure constitution, de ses conditions de formation et de la manière dont on l'établit. Alors, la manière pose pour la meilleure constitution. Ça semble donc faire appel directement au livre 7. Mais entre-temps, l'ordre qui nous est transmis des livres, c'est le livre 4, qui n'est pas du tout ce qui vient d'être annoncé. Alors bon, le livre 4 semble commencer avec une introduction d'une ampleur toute particulière qui semble commencer quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, rupture entre les deux livres, ça semble n'avoir rien à faire directement. C'est une observation d'Aristote, semble-t-il, très liée à une observation précise des faits qui essaye de saisir les formes de constitution et, dit-il, toutes si possible, enfin, toutes les constitutions possibles, avec leurs nuances et les classifications. Donc, vous voyez, on entre dans quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on vient de voir. Et Aristote va utiliser dans ses livres 4 à 6, trois schémas pour essayer de saisir le phénomène des constitutions politiques, le phénomène des formes des cités. Un schéma qu'on a déjà vu en livre 3 avec le dernier séminaire. C'est-à-dire, les trois constitutions correctes sont celles qui sont gouvernées par un seul homme, par quelques-uns ou par la multitude, en vue du bien commun. Et à ces trois constitutions correspondent les trois déviations. Justement, c'est les gouvernements d'un seul, de quelques-uns ou de la multitude qui gouvernent en vue de l'intérêt particulier. Alors, quand on parle du bien commun, c'est une petite remarque pendant que j'y pense. Le mot koinos agathos qui donc veut dire en grec bien commun se trouve très rarement chez Aristote. C'est le plus souvent koinon symphéron, ce qui se traduit, je crois, littéralement ce qui est porté avec, en commun. Enfin, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose. Alors les traducteurs traduisent par intérêt commun. Donc la question du bien commun, la problématique du bien commun est quand même moins évidente que ne le paraissent quand on en parle comme ça de façon très simple. Alors c'est sans doute avec la païdéia, l'éducation, qu'on pourra peut-être essayer de voir. Mais souvent, c'est bien plus souvent un côté presque d'efficacité, je dis presque, parce que c'est justement savoir, que le bien commun qui semble tout de suite offrir la perspective. Parce que agathos, c'est bien, mais dans koinon sulferon, apparemment, il n'y a pas directement bien. Et alors, le schéma à trois constitutions correctes et trois constitutions déviées, donc 6 en tout, est repris dans l'éthique à Nicomaque, livre 8, chapitre 12. Et comme l'éthique est un livre plus achevé, il semble que ce soit celui qu'Aristote finalement préfère. Il y a un deuxième schéma qu'Aristote utilise tout le temps et il le critique tout le temps. Il l'utilise sans doute parce que c'est dans le climat de réflexion politique de son époque, c'était sans doute celui qui était le plus accessible. C'est, selon disent certains, il n'y a que démocratie et oligarchie. Donc en gros, on va voir démocratie, gouvernement d'une multitude, et oligarchie, gouvernement de peu riches. Justement, ça va être le problème. Et alors, à la démocratie correspond le gouvernement des pauvres, en gros, et à l'oligarchie, gouvernement des riches. Donc, vous voyez, vision assez simple de la politique. Les pauvres, les riches, ça fait deux formes de constitution. Entre les deux, il y a des déviations. L'aristocratie, dont on parle habituellement, se rattacherait donc à l'oligarchie, plutôt les riches, et la politie, ce que Aristote appelle politie, politéia. Ça veut dire à la fois constitution, et puis c'est à la fois aussi le nom d'une forme particulière. Donc c'est à la fois le nom général pour les constitutions, ce que nous on pourrait traduire en français par régime, si on veut, et puis à la fois la politie, qui est une constitution bien déterminée. Donc la politie serait une déviation de la démocratie, selon certains. Et puis, troisième schéma qu'Aristote cite de temps en temps, une seule constitution correcte, et puis toutes les autres, alors qui seraient manifestées par une sorte de mélange entre monarchie et aristocratie. Donc monarchie qui met en lumière l'autorité, et puis l'aristocratie qui met en lumière le mérite et l'excellence. Et puis toutes les autres constitutions étant plus ou moins des déviations suivant divers degrés. Alors ça manifeste la complexité, on entre dans une étude assez complexe, je ne vais pas voir tout entier, bien sûr, ça serait beaucoup trop long. Donc, en définitive, Aristote semble retenir le schéma à trois constitutions justes et trois déviées, donc à six, ou bien le schéma à une constitution bonne au départ, mais pas à deux. Donc un, trois, mais pas deux. Donc, et alors, tous les auteurs, en parlant de ces livres 4 à 6, parlent toujours de techniques de constitution. Monsieur Delobier parle de sociologie politique. Pour Delobier, c'est les livres sociologiques d'Aristote. Il y a quelque chose de juste, ça manifeste. Ça manifeste la difficulté qu'il y a à découvrir ce qu'il y a de philosophique. C'est là, la philosophie est quand même très enfouie là-dedans. Il y a toujours des problèmes très très techniques, mais ça, c'est pas du tout. Bon. Alors, et aussi, on dit aussi que les auteurs, ça c'est très assez caractéristique, c'est toujours ce qu'on lit, c'est l'étude réaliste d'Aristote. Enfin, voilà Aristote réaliste, parce qu'il étudie concrètement les constitutions par rapport à ce qu'il fait après dans le livre 7 ou après dans le livre 2 ou 3 surtout, l'Aristote idéaliste. Platonicien. Et d'ailleurs, la manière dont les auteurs ordonnent chronologiquement les livres se base là-dessus. Première période platonicienne, enfin, ce que Benoît a dit au début de l'année. Alors, le livre 4 s'ouvre sur une question de méthode où Aristote dit que c'est à une seule discipline d'étudier ce qui appartient à un seul genre en propre. Je vois que l'heure passe très rapidement, donc je vais aller vite. Et il utilise à cet effet une analogie avec la gymnastique qui est intéressante parce que justement ça manifeste le caractère très pratique. Et que Budé résume comme ça, c'est pour la gymnastique, il y a quatre points de vue qu'on peut prendre. Soit le meilleur exercice en soi, auquel correspond, alors l'analogie d'Aristote montre, correspond la meilleure constitution aplo, c'est-à-dire absolument. Ou bien on prend le meilleur exercice, le mieux adapté à un corps déterminé. Donc avec telle condition, ce sera la constitution meilleure d'après les circonstances. Ou bien il y a l'entraînement limité de l'amateur. Ça sera la constitution inférieure établie pour des états médiocres. Ou bien encore, il y a l'exercice adapté au plus grand nombre, et alors là, ça sera la constitution qui convient le mieux à la plupart des États. Voilà comment Aristote essaye d'appréhender, au point de départ, la complexité . Bon, alors je passe sur les détails, mais il y a deux plans d'étude d'Aristote au début de ce livre. Alors, toute la difficulté, c'est de voir qu'il respecte l'un, souvent il ne respecte pas l'autre, et inversement. Donc c'est un livre qui est assez peu achevé, finalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Aristote commence la classification des types de politéia, et il utilise des critères. Alors, le premier critère, enfin, je résume beaucoup, mais il utilise quatre critères dans tout le livre de la politique pour diversifier les politéia. Donc, c'est point de vue méthodologique qui nous intéresse peut-être un peu plus. Premier critère, donc celui que je viens de vous dire, soit c'est l'autorité d'un seul, soit de quelques-uns, soit de la multitude. Et puis, deuxième critère, en vue du bien commun ou en vue de l'intérêt individuel. Première manière de voir les choses. Deuxième manière, la cité est composée d'une pluralité d'éléments. Et alors, suivant que ces éléments, suivant la composition de ces éléments, la cité varie d'organisation. Donc, c'est assez vague ce que je vous dis, mais si on voulait rentrer dans les détails, ça prendrait énormément de temps. Dans le livre 7, Aristote donne une autre explication. C'est la diversité des conceptions de la justice. Pardon, c'est dans le livre 6. La diversité des conceptions de la justice et de l'égalité entre citoyens et de cette même réalisation de la justice diffère. Une multitude de gens pauvres aura une conception de la justice et de l'égalité différente que s'il y en a un petit nombre qui est riche. Donc, vous voyez. Et puis en livre 7, beaucoup plus intéressant, enfin, ça nous attire plus, d'un point de vue beaucoup plus éthique, Aristote dira que le bonheur étant actualisation de la vertu, energeia, et réalisation des actes selon la vertu, les citoyens dans la cité participent différemment et réalisent différemment le bonheur, plus ou moins. Et les moyens pour arriver pour réaliser ce bonheur étant différents suivant ce que chacun pense, que chaque cité pense, il y aura comme ça différentes manières d'arriver au bonheur pour la cité et pour l'individu. Donc c'est un point de vue beaucoup plus éthique, assez différent des autres. Bon. Alors, toujours au point de vue méthodologique, j'écourte beaucoup. Il y a un point de vue intéressant d'Aristote qui fait après une seconde analogie avec les organes, une analogie biologique, pour montrer la recherche de toutes les diverses formes de constitution. Il en est comme des animaux, il y a un certain nombre d'organes indispensables, organes locomoteurs, organes nutritifs, etc. Et alors, il y a diverses sortes d'organes locomoteurs, par exemple. Et alors, chaque espèce sera déterminée par le choix d'une de ces formes. Alors ainsi, on peut concevoir les différentes formes de constitution comme différents agencements, comme pour les espèces animales. On se souvient qu'Aristote était quand même très intéressé par le point de vue biologique. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que généralement Aristote utilise dans les autres œuvres, Aristote généralement utilise une analogie dans l'ordre de l'art pour faire comprendre la réalité qu'il est en train d'analyser. Parce que l'art est plus proche de nous, on comprend mieux, c'est plus immédiat. Mais là, justement, Aristote utilise une analogie dans l'ordre de la vie, dans l'ordre très naturel. Alors, est-ce que ce n'est pas pour nous montrer que Aristote attache de l'importance à montrer le caractère naturel de la cité? Enfin, je ne sais pas, c'est une hypothèse, parce que généralement, la constitution apparaît comme quelque chose de plus artificiel, et donc ça paraît normal qu'Aristote prenne l'analogie dans le caractère plus vital. Donc, alors, je vous cite juste ce que fait Aristote. Aristote établit une première classification de 5 démocraties qui varient, c'est plutôt le point de vue législatif qui varie. C'est des questions de sens, de revenus censitaires, de lois, etc. et puis quatre formes d'oligarchie. Donc il s'appuie sur le deuxième schéma, d'une part démocratie, d'autre part oligarchie, pour faire son enquête. Et puis il recommence, il fait une deuxième classification des mêmes démocraties et oligarchies, mais de ce point de vue, d'un point de vue plutôt différent, la composition sociale. Donc la composition sociale suivant la prédominance, composition sociale, c'est par exemple les agriculteurs. Aristote a établi toute une liste d'éléments de la cité. Les agriculteurs, je vais vous passer les détails. Et puis alors, après ces deux classifications, Aristote engage la discussion sur la politie. La politie, donc le gouvernement en particulier qui s'appelle la politéia. Ce qu'il faut retenir en gros, à mon avis, c'est que la politie essaye de composer les trois éléments importants, la naissance, le point de vue de la naissance, le point de vue de la richesse et le point de vue du mérite. Mais alors, si on voit ces trois éléments, naissance, richesse, mérite, on voit que c'est les trois éléments que aussi l'aristocratie essaye de lier ensemble. C'est pourquoi Aristote voit toujours la politie à côté de l'aristocratie, et en fait on peut dire que la politie c'est assez proche de l'aristocratie. Mais alors l'aristocratie insiste plutôt sur le mérite, la vertu, ensuite la richesse et ensuite la liberté, la naissance libre, tandis que la politie insiste surtout sur la richesse et la liberté. C'est important la politie parce que en fait Aristote va étudier après le problème du gouvernement moyen, du gouvernement de la classe moyenne, et on va s'apercevoir qu'il y a correspondance, bien qu'Aristote ne le dise pas, entre gouvernement de la classe moyenne. Donc classe moyenne, c'est assez pratique, c'est les notables qui sont pas trop riches mais suffisamment vertueux, et le gouvernement moyen. Alors c'est une distinction qu'il faut comprendre. Le gouvernement moyen, c'est toujours Aristote qui essaye de comprendre quelle est la moyenne, toujours dans l'idée de la médiété relative des gouvernements, tandis que le gouvernement de la classe moyenne, c'est concrètement le gouvernement de la classe qui est ni riche ni pauvre. Et alors si ça s'identifie effectivement, c'est intéressant parce que le gouvernement moyen, c'est assez peu concret, tandis que le gouvernement de la classe moyenne, c'est tout à fait concret. Bon, alors voilà les avantages du gouvernement de la classe moyenne qui semble qu'Aristote préfère par-dessus tout. Les avantages, c'est que si la classe moyenne est nombreuse, elle sert d'arbitre et de tampon entre les riches et les pauvres. Si, comme elle n'est pas assez riche pour se dispenser de travailler, elle ne court pas avec acharnement après les charges, mais elle accepte quand même de les assumer en respectant la loi. Donc deuxième avantage. Et elle est douée d'une bonne capacité militaire. Et Aristote rassemble tout ça en disant que finalement elle est capable de gouverner en vue de l'intérêt commun. Donc on peut dire bien commun. Voilà un peu, je crois, la préférence d'Aristote. Mais alors bon, il est 4 heures, alors je m'excuse de passer vite. Bon, ça vous donne une très légère idée de ce qu'est le livre 4, qui est donc une étude assez technique. Du point de vue philosophique, il n'y a pas grand-chose. On peut dire qu'Aristote exerce sa sagacité philosophique, mais il n'y a pas une véritable... Il y a une analyse, mais une analyse d'éléments. Alors avec le livre 7, on entre dans quelque chose de très différent, puisque ça commence Donc je passe les livres 5 et 6, hein, parce qu'on n'a pas du tout le temps de les voir. 5, c'est la pathologie de la réalité politique, les révolutions, les changements de pouvoir, etc., et puis la manière de les sauvegarder. Et puis 6, c'est un livre qui revient compléter le livre 4. Alors, le livre 7 commence ainsi, Tricot, page 465. Quand on se dispose à procéder à une recherche bien conduite sur la constitution la meilleure, Tricot traduit idéal, mais c'est Aristée en fait, la constitution la meilleure, il faut nécessairement déterminer d'abord quel est le mode de vie le plus désirable. C'est un texte important. Mode de vie le plus désirable. Si ce point en effet est laissé dans l'ombre, la meilleure forme de constitution reste forcément elle aussi dans l'obscurité, puisqu'enfin il est normal que ceux qui jouissent des plus parfaites institutions politiques, dans des conditions données, mènent aussi la vie la plus parfaite, à moins de quelques circonstances. C'est pourquoi nous devons d'abord nous mettre d'accord sur le mode de vie le plus digne d'être choisi par tous les hommes, pour ainsi dire, et après cela, voir si ce mode de vie est le même pour la communauté et pour l'individu pris isolément, ou s'il est différent. Donc, vous voyez, on change du tout au tout. Encore, deuxième grand changement. On est dans un point de vue beaucoup plus éthique, ça apparaît évidemment, puisqu'il faut chercher quel est le genre de vie, le mode de vie le plus désirable. Et c'est important parce que Aristote avait déjà dit dans le livre 4 que la Alors, donc, Aristote utilise là explicitement, il le dit, les résultats de l'éthique. La meilleure vie, c'est la vie selon la vertu et la prudence. C'est ça le bonheur de l'individu, dit-il. Et il affirme à plusieurs reprises, il affirme, mais il ne rend pas compte, que ce bonheur est le même pour la cité. Vous voyez, c'est un point assez particulier. Le bonheur pour l'individu, la vie la plus parfaite pour l'individu, c'est la même chose pour la cité. Et alors, ça va être comme un leitmotiv de ce livre 7. Mais alors, quelle est, donc, si la vie selon la vertu, la prudence est la meilleure, quel est le mode de vie qui va réaliser le mieux cette vie la plus désirable ? Vie active ou vie théorétique ? Enfin, vie contemplative. Vie active ou vie contemplative ? Et alors, très curieusement, Aristote dit c'est la même question pour la politéia, c'est-à-dire pour la cité. C'est la même question pour la cité. Quel est le genre de vie de la cité? Alors, je crois que la règle générale dans ce livre 7, c'est qu'Aristote se place toujours d'abord du point de vue de l'individu. Parce qu'il prend les choses concrètement, la cité, c'est pas une entité abstraite. La vie de la cité, elle est faite d'abord de la vie des individus. Enfin, je crois que c'est vraiment la manière la plus simple et normale de comprendre ce livre, parce qu'Aristote ne rend jamais compte de ce passage entre cité et individu. Alors, une telle cité, donc on est dans la recherche de la cité la meilleure, qui donnera le meilleur genre de vie. C'est celle qui permet à l'homme de vivre, donc, de la meilleure façon. Et c'est la tâche du législateur de réaliser cette participation à la vie bonne. Donc le législateur intervient là. Et c'est un peu pour ça que j'avais marqué de lire le dernier chapitre de l'éthique, parce que c'est là où les choses sont le mieux précisées. Puisque dans le livre 7, ça, c'est vraiment une recherche. Alors, Aristote précise, discute dialectiquement, comme il a l'habitude de le faire, la vie active, la vie, ou bien la vie dégagée de toute activité politique, le pour et le contre, et il conclut... En disant, si le bonheur c'est une certaine activité bonne, c'est forcément la vie active qui sera la réalisation du bonheur. Mais pas la vie active telle qu'on la conçoit généralement, c'est-à-dire la vie qui réalisatrice de choses, mais l'activité, dit-il, intérieure, et je rajoute, non transitive, parce que Aristote dit lui-même, qui a sa fin en elle-même. Donc c'est un point de vue carrément éthique. Il reprend l'activité intérieure, et il dit théoria. théoria, c'est-à-dire contemplation. Enfin, dans un... Et puis, alors, maintenant que la fin, la finalité est posée, Aristote dit, très classiquement, il y a une distinction entre la fin et les moyens. Ce qui introduit la possibilité de défaillance. Parce que on peut se tromper sur la fin, on peut se tromper sur les moyens, pour arriver à la fin, on peut se tromper sur les deux. Et donc, s'il y a défaillance, c'est là que l'éducation va pouvoir s'exercer. Parce que si tout était déterminé, il n'y aurait pas besoin d'éducation. C'est ce qu'on voit avec les vertus. Il y a une possibilité de vertu que s'il y a une certaine indétermination. Alors, par rapport à cette division entre fin et moyen, Aristote précise, la cité a un pouvoir absolu par rapport aux biens qui sont relatifs. Donc je traduis moyen, en fait. Mais c'est l'histoire, c'est l'affaire du citoyen d'être vertueux, d'acquérir l'excellence. Vous voyez une sorte de partage des eaux entre la cité qui a un pouvoir absolu sur les moyens et qu'elle doit se procurer, et le citoyen qui doit être vertueux. Le citoyen doit être vertueux, et c'est une affaire, dit Aristote, de science et de choix volontaire. C'est-à-dire, en grec, épistémé et proairesis. Alors, c'est une affaire de science et de choix volontaire, et c'est aussi une affaire de trois facteurs, dit Aristote, la nature, l'habitude et la raison. Alors là, je crois que ça, c'est un point important, parce que c'est là où, quand Aristote dit ça, qu'il situe le domaine de la païdéia, de l'éducation. Ça apparaît pas très clairement dans ce que je dis, mais... tout le livre 7 peut être vu comme une préparation pour déterminer où va s'exercer la païdéia, l'éducation. Donc Aristote navigue en essayant de préciser successivement fin, moyen, et puis revient sur la fin. Tout ça pour préciser que la païdéia va donc s'exercer sur l'habitude et la raison. Parce que la nature, c'est une certaine disposition des corps et de l'âme, dit Aristote, qui nous est donnée, on ne peut rien y faire. Ils disent que l'habitude est là pour orienter les qualités dans un sens ou dans l'autre, enfin, plutôt dans le meilleur sens. Et puis la raison, le logos, normalement devrait être en harmonie avec la nature et les habitudes acquises, mais bien souvent, dit Aristote, il va contre les habitudes, parce que les habitudes ont été acquises dans un mauvais sens. Alors, pour l'instant, on semble être en éthique, enfin, pour s'exprimer en nos termes, en éthique personnelle. On ne voit pas très bien le point de vue politique. Et alors, c'est là qu'Aristote dit tout d'un coup, la païdéia devra répondre à la vie future du citoyen. Donc, la païdéia doit prendre en compte quelles seront les tâches du citoyen futur, puisqu'on est toujours dans la cité. Et c'est la tâche du législateur. Le législateur doit, alors, ordonner la législation, la cité, en fait, doit ordonner la cité en vue de des fins de la vie humaine, qui sont premièrement la vie de loisir qui a fait l'objet chez Aristote dans le livre 7 de toute une discussion assez longue, dialectique, pour savoir la vie de loisir, de quoi est-elle faite par rapport à la vie active, la guerre, etc. Donc, je vous donne le résultat là. La vie active, le loisir et la paix. Deuxièmement, la vie bonne et belle. C'est comme ça que je traduirais kalos. Le kalos qui joue un très grand rôle chez Aristote. L'excellence est toujours jointe au kalos. Et puis deuxièmement, le loisir et la paix qui permet la vie kalos, c'est cela la vie parfaite. Donc le législateur doit avoir en vue cette fin. Et puis en dernier lieu, enfin pas tout à fait en dernier lieu, mais Aristote précise un point de vue qui est, alors il entre dans les détails pratiques, enfin plus pratiques, quel est l'ordre de la païdéia. Alors, Aristote constate que le corps semble se développer avant l'âme, et que au niveau de l'âme, le désir se développe avant le nous. Le désir, c'est donc orexis, c'est plutôt du côté affectif sensible. Et donc, d'un point de vue génétique, il va falloir, dit Aristote, appliquer la païdéia d'abord au désir et au corps, et puis peu à peu à l'âme et au nous. Mais, Aristote insiste bien, la fin, c'est le nous. Il le dit explicitement. La fin, c'est le nous. C'est donc le nous et le logos. On peut remarquer, c'est intéressant de voir que Aristote met ensemble là ici nous et logos, c'est-à-dire si on traduit en latin ratio et intellectus. Donc ça rappelle des choses. Enfin, c'est pas directement dans notre sujet. Et puis Aristote finit le livre 7 sur le mariage, la procréation. Donc je vous passe tous les détails, mais il légifère sur le mariage, l'âge des conjoints. Jusqu'à quand devront-ils procréer? D'ailleurs, procréer pour les conjoints, c'est un service de la cité. Ensuite, le mode d'alimentation des enfants, enfin, il rentre vraiment dans les détails. Là. Il faut du lait et pas trop de vin, dit-il. Alors, je crois que la difficulté, c'est de saisir quelle est la place de la païdéia par rapport à la politique. Parce que pour l'instant, il semble que le grand accent soit mis sur la païdéia de point de vue personnel. Alors pourquoi Aristote met-il tout le législateur? Pourquoi met-il tant d'accent sur le point de vue personnel dans un livre de politique? La païdéia, c'est à la faire, enfin, la vie parfaite, l'acquisition de l'excellence, de la vertu, c'est à la fois l'affaire du citoyen, une affaire personnelle, et en même temps Aristote insiste sur la nécessité du législateur. Alors c'est là que l'éthique anicomaque, à mon avis, donne la réponse. Donc le dernier chapitre de l'éthique anicomaque, livre 10, chapitre 10, où Aristote montre, donc donne les mêmes éléments que dans ce livre 7. Il faut créer une disposition à la vertu par l'habitude. Il faut, donc c'est ça l'éducation, c'est créer des habitudes au départ, parce que sinon c'est trop pénible, et donc il faut combler la pénibilité de l'acquisition de la vertu par l'habitude. D'habitude rendant moins pénible. Ce qui est impossible, dit Aristote, s'il n'y a pas le législateur. Alors pour l'instant, il ne justifie pas, mais il annonce, législateur, seule la loi est à la fois contraignante pour ceux qui sont récalcitrants, et l'avantage principal de la loi, surtout, c'est qu'elle émane de la phronesis, donc de la prudence et du nous. Donc c'est une règle qui s'adresse à l'intelligence. Donc il faut comprendre la loi, non pas les résultats législatifs qu'on vote à la Chambre, par exemple, mais le fruit de la phronesis et du nous, qui dit que Aristote dit explicitement la loi, peu importe qu'elle soit écrite ou non écrite, donc ça montre bien que ce n'est pas une loi au point de vue matériel. Alors Aristote, ainsi, je crois, met une corrélation nécessaire entre de bonnes lois et une bonne éducation. Alors c'est là où sans doute va se placer notre discussion, parce que si cette corrélation nécessaire entre bonne loi et bonne éducation, ça pose tout le problème de l'équilibre entre le point de vue personnel et le point de vue politique. C'est sans doute là qu'on le voit. Sans doute dans le point de vue de l'éducation, où se voit mieux les problèmes de l'équilibre entre politique et éthique personnelle. C'est pour ça que ce livre 7 est quand même important. Alors, s'il y a cette corrélation nécessaire entre de bonnes lois et une bonne éducation, ça veut donc dire que, même si l'éducation est individuelle, et Aristote le dit explicitement, l'éducation est bien mieux faite quand c'est une éducation individuelle, non pas collective. Il faut que celui qui éduque soit capable de légiférer, donc, et la science de la législation. Donc voilà ce que dit Aristote. Et ça permet à Aristote de dire que la science de la législation doit compléter la philosophie des choses humaines. Et c'est comme ça qu'il finit son éthique. Ce qui indique qu'il y a une sorte de continuité, il y a même une continuité entre ce qu'on appelle l'éthique anicomaque et la politique. D'ailleurs, le dernier paragraphe de l'éthique anicomaque, c'est un plan de la politique. Alors, bon. Je crois qu'on, pour regarder la païdéia chez Aristote, voilà ce qu'on pourrait dire. Platon avait immédiatement regardé la païdéia, en premier lieu. C'est pas du tout ce que fait Aristote. Aristote regarde d'abord le meilleur gouvernement, puis ce qui en est le fruit propre, c'est-à-dire la païdéia. Donc c'est différent, c'est pas du tout Platon. C'est-à-dire, le gouvernement doit avoir la charge des futurs citoyens. Je crois qu'il y a cet élément qui est assez essentiel chez Aristote. Il faut former de futurs citoyens, sinon la constitution de la cité ne se survivra pas. Mais en même temps, c'est pour assurer la survie de la cité, mais en même temps, Aristote dit, le but unique, c'est la perfection de l'homme en vue d'être heureux. Et donc les moyens de cette éducation sont jugés en fonction des valeurs éthiques, des critères éthiques personnels. Alors on comprend que la païdéia dans la cité, c'est le point de vue le plus pratique et le plus précis. Et je crois que c'est pour cela qu'Aristote termine par ce point de vue. Termine. Il y a encore le livre 8 dont je n'ai pas parlé, mais c'est le point de vue pratique, c'est la musique, la gymnastique. Il y avait des tas de choses intéressantes à dire, mais ce n'était pas possible. Alors, on peut se rappeler qu'il avait commencé, il y a une note intéressante, Aristote avait commencé la politique par l'économie. Enfin, pas tout à fait par l'économie, mais dans le livre 1, il avait donné une place très importante à l'économie, puis à la fin, il finit par la païdéia. C'est quand même deux points de vue pratiques. L'économie, je crois, étant plutôt... Alors, il avait aussi commencé par le point de vue éthique, très fortement, puisque c'était la famille et la fin de la cité. Donc le point de vue éthique est au point de départ et au terme. Je crois que c'est le plus important, en fait, à voir. Au point de départ et au terme, entre les deux, il y a l'économie, qui pourrait servir, je crois, de fondement. Ça serait le point de vue du fondement. Donc on voit clairement l'éthique, je crois, est enveloppée par la politique. Je crois que c'est clair quand on lit le dernier paragraphe, enfin, les deux derniers paragraphes de l'éthique à Nicomaque. Et donc, on peut donc, pour conclure sur la païdéia, dire que la païdéia, c'est vraiment la fin prochaine, la fin proche de la politique, de la cité, du gouvernement de la cité. C'est vraiment ça qui est la fin proche. Et si on veut découvrir une fin lointaine, ça serait ce qu'on appellerait le bien commun. Alors voilà, c'est sans doute la païdéia, à mon avis, qui peut le mieux rassembler les éléments pour situer le bien personnel, le bien de la famille. J'ai pas beaucoup parlé de la famille, mais ce serait justement peut-être l'objet des discussions. Parce que la dernière fois, le père a fait une remarque, c'était que la foi chrétienne avait beaucoup mûri l'homme et qu'il y avait eu une sorte de renversement. La famille, avant, était plutôt chargée du point de vue économique et l'État du point de vue éducation, disent que maintenant, ce serait bien plutôt le contraire. L'économie est au niveau étatique et l'éducation est laissée à la famille. Et donc, l'éducation peut permettre de situer le bien personnel, le bien de la famille, le bien de la cité. Je vais m'arrêter là. L'avantage de la coutume, effectivement, c'est qu'elle est à la fois universelle, il y a un aspect universel, puisqu'elle s'adresse à tous ceux qui ont la coutume. Elle est personnelle, parce que la coutume n'existe que vécue par les individus. Et elle a l'avantage aussi d'être dans la famille, puisqu'il y a des coutumes familiales, les lois non écrites de la famille. D'ailleurs, Aristote en parle dans le livre 7. et elle peut être aussi au point de vue plus communautaire. Les coutumes communautaires, bien que, enfin, je ne sais pas, si, en Grèce peut-être.
Mais, la tradition.
Oui, c'est presque la tradition. Parce que le mot habitude, évidemment, traduit mal, je crois, éthos. Je crois qu'éthos a quelque chose de plus lié aux mœurs. Habitude, ça a l'air de presque un bassin, un petit peu d'extérieur. L'archéologie, je crois, plus intérieure et plus intime, on passe des habitudes à la vertu. Alors, est-ce qu'on passe pas, là, ce que vous avez souligné, ce qui est intéressant, du point de vue Heidegger, du point de vue forcément personnel, Heidegger est forcément personnel. Alors, est-ce qu'on ne retrouverait pas là, dans l'éthos quelque chose qui est commun vers quelque chose qui est personnel? Beaucoup de personnes vivent au niveau éthos, sans se rendre compte.
Oui,
ce n'est pas encore suffisamment personnel.
Il semble qu'il y ait quand même une certaine, une grande différence entre l'habitude coutume et puis le point de vue de l'arrêté.
Oui, une grande différence, c'est que l'arrêté est personnel, alors que l'autre n'est pas nécessairement personnel.
Oui, mais il ne semble pas que, la coutume soit une excellence de la personne, ni c'est simplement un moyen extérieur pour faciliter.
C'est un moyen commun. C'est la communauté. Il faut une communauté pour que l'éthos existe. C'est pour voir le passage, toujours, ce que vous avez souligné, je crois que c'est très important, ce passage de la personne à la communauté. Ce passage, si vous voulez, ce que vous avez dit aussi, le passage de l'éthique personnelle à l'aspect politique. Constamment. Je vais très dans l'autre. Alors, est-ce que éthos n'est pas quelque chose qui est comme, je dirais, un patrimoine d'une communauté? Il y a des coutumes, il y a des habitudes, on voit très bien. La difficulté d'une jeune communauté, c'est qu'il n'y a pas d'éthos. Mais quand vous entrez dans une vieille communauté, il y a des coutumes, c'est des habitudes, on fait comme ça. Fait comme ça, quelquefois ça devient tellement fort qu'on dit que ça fait tout le temps comme ça, mais pourquoi? Ah, non, c'est pas important, on fait comme ça, on a toujours fait comme ça, mais sans cause. Mais si on entre dans un état de coutume,
mais quand tu arrives
là, on doit acquérir des vertus qui sont nécessairement personnelles.
Il y a peut-être un point de vue, j'allais dire, presque plus technique, parce que Aristote dit à un moment, enfin, j'ai pas vérifié le texte grec, c'est la traduction très courte, il faudrait pas, mais que l'habitude est faite pour orienter les qualités qui peuvent aller soit dans le meilleur, soit dans le pire.
C'est voulu communautaire, c'est ça que j'insiste. Oui. C'est pour essayer de comprendre toujours ces liens entre le point de vue. Communauté, qu'est-ce qu'apporte la communauté? Qu'apporte le point de vue politique? Et en même temps, le point de vue politique, comme vous l'avez souligné, je crois qu'en effet, pour arriver ça, le point de vue est quelque chose extrêmement important. Quand on ne comprend pas du tout son aspect politique, ce n'est pas le point de vue. Mais il y a ce passage de éthos à vertu, qui me semble très important.
Est-ce que le passage se fait pas plus entre loi et vertu? Et que les coutumes seraient plus du côté du vivant, de savoir comment est-ce qu'on vit
par rapport au tout. Côté du vécu. Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand on est en face d'une communauté qui a vécu longuement, il y a éthos. Une nouvelle communauté, il n'y a pas d'éthos. Alors qu'il peut y avoir des lois.
Est-ce que c'est vraiment du point de vue moral, l'éthos?
Ah oui. C'est le vécu.
Est-ce que on dit on plante une pomme de terre à la nouvelle lune,
ça fait partie des coutumes. Ah non, ça risque alors de venir justement quelque chose comme ça, on ne sait plus très bien. Mais je crois qu'il y a plus d'éthos.
Aristote dit que l'éthos est supérieur à l'autorité personnelle. Il dit qu'à un endroit que la coutume est plus importante qu'un chef politique, mais que la loi est moins importante qu'un chef politique. Et donc, ça donne une souplesse à la loi qui est beaucoup plus grande.
Et un poids à l'éthos qui est très grand.
Mais qui n'est pas contraignant comme la loi.
C'est un milieu dans lequel on vit. On entre dans un milieu qui vit, et qui vit de cette manière-là, et qui a formé des saints, donc qui a formé des gens de vertu. C'est pour ça que c'est orienté, et les qualités sont orientées. Et
résultat, ça implique une orientation. Ça, c'est sûr. Vous voyez, si on prenait, si vous voulez, parce que ce serait intéressant à voir, par rapport à la naissance de la vertu, comment mettriez-vous, au point de vue des causalités, le rôle de la loi, le rôle du législateur, le rôle de l'éthos, par rapport à l'acquisition même de la vertu? Tout ça concourt à l'acquisition de la vertu, vous êtes d'accord ? À la naissance de la vertu. Alors, si on voulait l'analyser, la loi causalité exemplaire, hein, le législateur, l'efficience, la vertu, c'est le fruit des rouges qu'on cherche, éthos. Éthos serait de quelque chose matériel. Plus que matériel. Plus que matériel, sûrement. C'est le milieu.
Disposition.
Des dispositions. C'est une disposition. Disposition est portée matérielle, mais c'est disposition. C'est l'orientation vers. Oui. Et ce n'est pas encore la vertu au sens fort. Est-ce qu'on pourrait faire un lien, vous voyez, entre. Vous savez, quand on parle ça par la part pour vous de l'amitié, par exemple, en disant vie commune, les amis doivent mener la même vie, la vie commune, et l'amitié filiale. Alors, la vie commune est à la fois ce qui dispose à l'amitié et en même temps le fruit. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose d'analogue dans l'éthos? Il faut des gens vertueux qui permettent à un milieu de pouvoir porter d'autres qui n'ont pas encore la vertu. Donc, éthos, c'est à la fois ce qui dispose à la vertu, et en même temps un peu le fruit de la vertu. Là, il n'y a pas quelque chose un peu analogue, vous voyez.
Mais alors, par rapport à Aristote, on ne voit plus très bien la place de la loi.
Ah oui, la loi. Dans l'amitié, il n'y a pas de loi, alors qu'au contraire, dans la vertu, il y a la loi. Et la loi est ce qui va préciser ce que éthos ne précise pas.
Quel lien entre le tarkeia et le bonheur?
Ça, est-ce que c'est pas la propriété, le fruit ou la propriété?
La manière d'être.
Parce que je pense aussi à ce qu'il dit dans le début du livre de l'éthique, où il parle toujours de ce bien divin. Or là, il parle, bon, il ne dit pas le terme de tarkeia, mais il parle de l'autonomie de Dieu, de l'indépendance de Dieu, et il la compare à l'indépendance de la cité. Est-ce que ça ne serait pas de cette manière-là que le bien, le tarkeia de la cité aurait quelque chose de divin? Du côté du calot, du côté de la beauté.
Sûrement.
Rico, page 469.
C'est
lui, c'est
7-3.
7-1. Il dit, Dieu, nous invoquerons ici Dieu lui-même en témoignage, lui dont le bonheur et la félicité ne dépendent d'aucun des biens extérieurs, mais qui est heureux en lui-même, par lui-même, et parce qu'il est d'une qualité déterminée dans sa nature. Est-ce qu'on ne pourrait pas remarquer que la si philosophie politique qu'il y a chez Aristote, elle est bien plutôt d'un point de vue de la vie, et ça explique pourquoi Aristote recherche tout le temps les conditions, les éléments, parce qu'au point de vue de la vie, on est réduit, enfin, forcé de rechercher les conditions, les éléments.
C'est quand même l'opération volontaire. Toute l'éthique d'Aristote, toute la politique d'Aristote, à la différence du PM Sukens dans deux livres sur la vie, la vie, Aristote l'étudie de façon spéculative. Tandis que lorsqu'il s'agit de l'éthique et de la politique, on est dans philosophie pratique. Donc ce n'est pas le point de vue de la vie au sens propre, c'est plus le point de vue volontaire. C'est l'opération volontaire de l'homme pour l'éthique. La vie est sous-jacente, et comme je dis proche de la vie, c'est quand même pas formellement la vie. Je ne peux pas dire que formellement l'éthique et la politique regardent la vie de la vie, mais regardent les opérations volontaires. Tout est vu sous le point de vue de volontaire. Et tout est vu par le fait même des conditions nécessaires qu'il y a pour le volontaire, comment le point de vue du logos est nécessaire, le point de vue du logos orthos est nécessaire. On retrouve ici une certaine sagesse politique. Je ne sais pas si je corresponds à ce que vous voulez dire.
Non, ce n'est pas tout à fait ça que vous voulez dire.
Mais vous voulez dire que...
Non, mais je voulais simplement dire que... moi, je suis frappé par la manière dont Aristote procède dans la politique. La recherche des éléments, il revient tout ça, les classifications. On a du mal à
découvrir la complexité du problème.
Et l'importance du conditionnement.
Oui, tout à fait. Surtout en politique, encore plus qu'en politique. Oui.
Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'il ne semble pas qu'il y ait de principe propre en politique. Et donc s'il n'y a pas de principe propre, on ne peut voir que le comment.
C'est là où vous voyez, on verrait la différence que vous disiez à propos de la formule que vous avez entendue, on va essayer de comprendre les relations entre politique et éthique. Hein, entre politique et éthique, ce qui est quand même très important et très difficile. Vous avez dit que, au fond, l'éthique était comme enveloppée.
La politique enveloppée par l'éthique.
La politique est enveloppée par l'éthique. Ou bien l'éthique est enveloppée par l'éthique.
Moi, enfin.
C'est
un problème, mais c'est deux points de vue.
Oui, oui. C'est mutuel, vous diriez comment.
Alors, ce que j'ai dit, moi, c'était que la politique est enveloppée par l'éthique.
La politique n'est pas enveloppée par l'éthique.
Petit signe, parce que ça ne prouve rien. Aristote commence par un point de vue plutôt éthique, finit par un point de vue plutôt éthique.
Exactement, tout à fait d'accord.
Ce que vous venez de dire, le point de vue, le fait qu'Aristote insiste sur l'opération volontaire, c'est beaucoup plus. C'est plus proche du point de vue proprement éthique.
Politique.
Mais alors, il y a le problème, quand Aristote dit dans l'éthique que la politique est une science architectonique, c'est donc dire qu'elle englobe l'éthique. Mais c'est dans deux points de vue différents.
Alors, quels sont ces deux points de vue ? Je suis d'accord avec vous qu'on peut dire les deux formules. Mais il faut bien noter dans quel sens on dit l'une Et dans quel sens on dit l'autre? Parce que d'une certaine manière, c'est des rapports mutuels. On ne peut pas les séparer. Ce sont deux points de vue qui se tiennent, qui vont se préciser mutuellement. Alors, si j'emploie la formule première, je crois être la première qu'on doit employer, c'est que la politique est comme enveloppée par l'éthique. Hein? Sous quel point de vue? Non, mais préciser au point de vue des principes. Parce que je crois qu'il y a des principes éthiques, il n'y a pas de principe politique. Si je prends le point de vue philosophique.
Aristote ne cesse de le dire à propos de la païdéia, le but c'est la vie parfaite de l'homme. C'est le bien humain parfait.
Bien humain parfait. Donc il n'y a pas de finalité.
C'est peut-être pour ça qu'il répète tout le temps le bien de la cité. Enfin, la vie de la cité, c'est celle de la cité.
Il y a tout le temps une coïncidence entre le point de vue du bonheur de l'homme, du citoyen, les deux se tiennent. Pas deux choses différentes. Et alors, ce serait du côté de la finalité. Et du côté de la finalité, au point de vue de la finalité, je dois dire que la politique est enveloppée par l'éthique. Parce que seule l'éthique me fait comprendre la finalité. Donc, une politique qui se sépare de l'éthique n'a plus de finalité, c'est plus bon. Donc à ce moment-là, c'est la corruption suprême. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus quel est le bien de l'homme. Or, toute la politique est en vue du bien de l'homme. Ça, c'est sûr. Pour aider l'homme qui doit vivre en communauté. Alors, donc, on peut dire que la politique, que l'éthique enveloppe le politique. Parce que l'éthique seule me donne la finalité propre de l'homme. Et si maintenant je prends l'autre formule, que la politique enveloppe l'éthique.
Alors est-ce que ce n'est pas dans le sens où Aristote dit l'éthique, science architectonique?
Oui, mais.
Alors, c'est lié à la prudence.
Est-ce que ce n'est pas la païdéia? Est-ce que ce n'est pas à cause de la païdéia? La païdéia est en politique, elle n'est pas en éthique. Alors c'est l'ordre génétique, vous voyez? Du côté de l'ordre génétique, je peux dire que le point de vue l'éthique est enveloppé par la politique. Avant d'être un homme parfait, on est dans la cité. Donc du côté génétique.
Ce serait pas conditionnel.
Oui, ça n'a rien de même. J'aime mieux dire point de vue génétique. Parce que du point de vue génétique, on voit mieux la place exacte de la païdéia. La païdéia est de l'ordre génétique. Vous voyez, c'est un art qui nous aide à faire des gens qui deviennent vertueux. Et qui doivent devenir vertueux. Alors, vous avez les deux causalités qui interviennent. Vous voyez, le point de vue. Le point de vue éducatif, c'est très curieux, le point de vue de la politique enveloppe le point de vue éthique. Alors faisons attention, il faut tout de suite affirmer que le point de vue de la finalité n'est donné que par l'éthique. Donc la païdéia elle-même, génétiquement, vous voyez, doit être dépendante de l'éthique, puisque la finalité est donnée par l'éthique. C'est pour essayer de comprendre. Comment on peut dire d'une certaine manière ces deux formules? C'est uniquement ça, c'est une grosse idée. Il faut préciser, c'est pas plus. Mais il disait.
La critique est développée par la politique, plus qu'enveloppée, parce qu'en enveloppée, c'est ça le problème.
L'éthique est développée par la politique.
Développée
dans quel sens?
Développée justement dans la période de la religion, parce que les moyens de la pédagogie. La politique en tant qu'instrument pédagogique.
Oui, c'est ça.
Qui développe l'éthique.
Qui développe l'éthique. Développer dans quel
développe
sens?
Qu'est-ce que vous voulez dire? Développe le sens éthique.
Application. Développement dans le sens de l'application. Développement dans le sens. Développement, je ne vois pas très bien. Vous voyez, philosophiquement, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites développement?
Mais qui lui permet de.
De devenir pratique.
Qui lui permet de croître dans ses
C'est le point de vue de la croissance. Oui, mais voyez, ce que je veux dire, c'est au point de vue génétique. Si je prends les deux ordres que prend toujours Aristote, c'est pour ça que je prends des ordres qui sont des ordres qui sont toute la philosophie d'Aristote, l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Ce sont toujours les deux grandes dimensions qu'Aristote prend, parce qu'au fond, c'est le point de vue de l'être et c'est le point de vue du devenir. Il me semble que du point de vue du devenir, qui serait le point de vue de la matière, la politique a une priorité. On est né dans une famille. Vous voyez ? On est dans une famille et la famille est dans la cité. La famille, elle est née dans la cité, elle fait partie de la cité. Même si la païdéia va dépendre du côté de l'État, forcément il y a un lien entre la famille et la cité. Sépare pas les deux. Donc, au point de vue génétique, et j'aime mieux prendre cela parce que c'est plus dans les lignes des distinctions d'Aristote, vous voyez. Donc, alors, votre point de vue, bien, chose juste, c'est évident que c'est un développement. Mais un développement ne me dit pas le genre de causalité de priorité. Alors, ce qu'on cherchait, c'était le genre de priorité. Qu'est-ce qui est premier, l'éthique ou le point de vue politique. Alors, du côté finalité, c'est très net. Ça, je crois que c'est une netteté absolue, mais c'est très très net. C'est que le point de vue éthique a une priorité, donc une priorité de perfection, puisque c'est la priorité de la finalité. Impossibilité d'avoir une politique s'il n'y a pas une éthique. Impossibilité d'avoir une politique s'il n'y a pas une éthique. Et d'autre part, la politique va aider le point de vue éthique du point de vue génétique. Par le point de vue de la païdéia. Ce sera une formation. Et alors, du côté politique, on trouvera éthos, on trouvera loi, on trouvera le législateur, tout ça pour aider l'acquisition de la vertu. Et expliquer la païdéia. Sauf que je crois qu'au point de vue génétique, je peux dire que le point de vue éthique, le point de vue politique va avoir un rôle primordial. À ce point de vue-là, génétique, pas plus. Le point de vue génétique présuppose toujours la finalité.
Est-ce
qu'il y a
quelque chose qui fonde aussi au point de vue politique, c'est l'amour de l'enfant envers sa mère. C'est nécessaire à l'éducation, mais c'est déjà quelque chose.
Aristote en parle. Il parle de la famille, mais pas beaucoup, mais c'est un développement qu'on peut faire, nous, et nous devons le faire, parce que nous développons, et c'est ça, je crois, beaucoup plus très fort, que nous développons beaucoup plus qu'Aristote, du point de vue de la famille. Et au point de vue théologique, je dirais, nous entrons dans une ère où il faudra faire la théologie de la famille, ce qui n'a pas été fait. Et la théologie de la famille devient, et le Saint-Père nous donne tous les éléments pour faire la théologie. Pas défaite. Les sacrements. Les sacrements, c'est l'Église. Mais c'est pas la famille. Et alors, dans les sacrements et dans l'Église, vous voyez, la famille paraît toujours un tout petit peu à la remorque. Ah, c'est l'Église qui dit ça, c'est la hiérarchie qui dit ça. Alors, et on oublie que la famille a un rôle primordial dans certains domaines. Parce qu'on n'a pas fait de théologie de la famille. Et alors, il y a des analogies vis-à-vis de ça. Mais je crois qu'on peut dire que le point de vue politique nous donne ce point de vue premier génétique. Alors, reprenez la formule d'Aristote, la politique est science architectonique. Alors, vous l'expliquerez comment. Comment peut-on dire que la politique est science architectonique? Ça, il le dit, ça ne faut pas le dire. Parce que si c'est vrai, si je prends uniquement le point de vue priorité génétique, ça ne justifie pas l'électronique.
C'est pas vraiment le côté du calos.
C'est le côté du calos.
Du calos, c'est.
Oui, le calos, c'est du côté de la loi. Non, mais, je comprends bien, tu dis. ce point de vue de la beauté, la plénitude. C'est du côté science qu'il faut voir. Science architectonique. L'analogue à l'architecture du côté des arts. L'architecture est architectonique.
Est-ce qu'on ne pourrait pas comprendre ça dans le livre de la sagesse pratique?
Oui.
Sagesse en tant qu'elle ordonne.
Oui.
C'est la politique qui peut ordonner. Et de ce seul point de vue, c'est assez extérieur, ça reste assez extérieur.
C'est législateur.
D'ailleurs, il le dit lui-même dans l'éthique, la politique se sert des autres sciences pratiques et qu'en outre, elle légifère sur ce qu'il faut faire.
Sur notre perception. En tant que législateur, point de vue législation et la capacité de légiférer.
Justifier d'un point de vue philosophique en dehors d'une vision chrétienne le fait que l'éducation soit confiée à la famille.
Vous voyez, comme il dit tout à l'heure, il a cité à propos d'Aristote, à propos de la famille, en disant que la famille, la procréation est en vue de donner des enfants à l'État.
Oui,
on voit bien, là on voit très bien. Alors que pour nous, dans une vision chrétienne, évidence, la dame, on dira, on fera des statistiques du pays de la France pour voir combien les enfants donc, mais le but premier pour une famille chrétienne, c'est pas de donner des enfants à l'État. Je crois pas. Vous avez les finalités là, la finalité qui montre bien que l'éducation, parce qu'elle est d'abord au niveau, la procréation est d'abord au niveau de Dieu, éducation chrétienne, famille, éducation, et puis l'État en troisième lieu. Et je crois, pour Aristote, en premier lieu. Et c'est signifié. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.